VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, Abdourahmane Diab pour vous présenter cette édition de 18h30 GMT. On est mardi 25 avril 2017 au sommaire. Nouveau drame au Sénégal quelques jours après un incendie meurtrier lors d'une cérémonie religieuse. Une pirogue a chaviré la nuit dernière faisant 21 morts selon un dernier bilan. Le CICR suspend ses activités à Kidal dans le nord du Mali après un nouveau cambriolage visant ses locaux. Washington entame demain le retrait des troupes américaines engagées dans la lutte contre le groupe rebelle ougandais LRA en Centrafrique. Et l'activiste anti-esclavagiste mauritanien Biram Dab est parmi les 100 personnes les plus influentes au monde, primées par Time Magazine.
Je pense que sur la bataille de légitimité que nous livre le pouvoir en Mauritanie, c'est encore des victoires gagnées.
Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. C'est l'émotion au Sénégal après une nouvelle tragédie, après l'incendie de Medina Gounas dans le sud-est du pays qui avait fait 29 morts il y a deux semaines. Cette fois, c'est une pirogue transportant principalement des femmes qui a chaviré. Un nouveau bilan fait état de 21 morts. Les détails avec Seydina Abagay.
Une pirogue ayant à son bord 60 femmes a chaviré au large des îles du Saloum ce lundi en début de soirée. Dans un premier temps, 17 corps sans vie ont été repêchés, 2 portés disparus et 41 blessés graves dénombrés, dont 2 femmes enceintes. Les recherches ont été suspendues dans la nuit d'hier à cause de l'obscurité, de l'absence de moyens et du niveau d'agitation élevé de la mer. À leur reprise ce mardi matin, elles ont débouché sur la découverte de 2 autres corps sans vie. Au même moment, l'une des femmes enceintes rescapée du naufrage a succombé à ses blessures, portant le bilan macabre à 20 morts. Ces femmes, qui revenaient d'une récolte d'huîtres, ont été surpris par un vent violent qui a fait chavirer leur embarcation. La brusque montée du niveau de la mer et la mauvaise météo seraient à l'origine du drame. Les victimes, issues des îles du Saloum, s'adonnaient exclusivement au commerce halieutique. Sedina Abagay, à Dakar, pour VOA Afrique.
Le bilan donc qui s'alourdit à 21 morts. Le verdict dans le procès en appel de l'ex-président tchadien Hissène Habré sera rendu jeudi à Dakar par les chambres africaines extraordinaires. Cette cour l'avait condamné en première instance à la perpétuité pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, torture et viol, et a payé jusqu'à 20 millions de francs CFA, soit plus de 30 000 euros par victime. Une commission d'enquête tchadienne estime le bilan de la répression sous son régime de 82 à 90 à quelque 40 000 morts. En cas de condamnation, Hissène Habré, aujourd'hui âgé de 74 ans, purgera sa peine au Sénégal ou dans un autre pays de l'Union africaine. Au Mali, le CICR suspend ses activités dans la région de Kidal, cela à cause du deuxième cambriolage de ses locaux dans la ville, souvent ciblée par des attaques djihadistes. Cette suspension aura certainement des conséquences pour la couverture sanitaire de la ville, Kassim Traoré.
Cela fait 3 ans que la région de Kidal échappe à tout contrôle du gouvernement malien. Malgré cette situation, certaines ONG travaillent dans cette région. Non sans peine. C'est ainsi que le lundi 24 avril 2017, la sous-délégation du Comité international de la Croix-Rouge CICR à Kidal a été cambriolée par des individus vers 4h du matin. Face à cette situation d'insécurité, la Croix-Rouge a décidé de suspendre temporairement ses activités dans la région de Kidal jusqu'à nouvelle. Considérant qu'il s'agit du deuxième cambriolage en moins de 3 mois, nous pensons qu'il s'agit d'un problème général de sécurité dans l'environnement de Kidal. Décision a donc été prise de suspendre temporairement toutes les activités de la sous-délégation de Kidal. Cette décision ne touche pas les activités urgentes, notamment à l'hôpital de Kidal, car une suspension à ce niveau aurait de graves conséquences humanitaires, a déclaré Jean-Nicolas Marty, chef de la délégation du CICR au Mali. Malheureusement, le CICR demeure l'une des rares organisations présentes sur la place et à fournir une assistance humanitaire dans la région de Kidal. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
L'ONU dit avoir besoin de 64,5 millions de dollars en urgence pour faire face à la crise humanitaire née des violences meurtrières dans le Kasaï en République démocratique du Congo. Depuis le mois d'août dernier, les forces de sécurité et la milice traditionnaliste Kamwina Sapu s'affrontent dans la région, faisant plusieurs victimes et faisant fuir des milliers de personnes. Les États-Unis entament demain mercredi le retrait de leurs forces spéciales déployées dans l'est de la Centrafrique depuis 2011 pour combattre la rébellion de l'armée de résistance du Seigneur Elera Bagasikoura. Pour les Américains donc, c'est la fin d'une traque.
Le temps est venu de passer à autre chose, étant donné que l'organisation, la LRA, est vraiment en train de se battre pour sa survie, a déclaré le général Thomas Waldhauser à la tête d'Africom, le commandement américain pour l'Afrique, lors d'une conférence de presse téléphonique la semaine dernière. La LRA compte aujourd'hui 100 membres actifs contre plusieurs milliers il y a une dizaine d'années, selon Africom, présent en soutien des forces africaines dans l'est de la Centrafrique depuis 2011, avec une centaine de militaires de forces spéciales américaines, suivi en 2014 de 150 hommes de l'armée de l'air. Cette opération a été un succès assez important, a déclaré l'ambassadeur américain en Centrafrique début avril. Pourtant, le leader de la LRA reste introuvable. Joseph Kony est recherché pour crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, où est actuellement jugé Dominique Ongwen, l'un de ses anciens bras droits.
La condamnation à 10 ans de prison du journaliste camerounais Ahmed Abba et d'une amende de 85 000 euros continue de susciter des réactions d'indignation. Reporters sans frontières parlent d'une peine disproportionnée qui a pour seul but d'intimider les journalistes. Les avocats du journaliste ont annoncé qu'ils feraient appel du jugement. Ahmed Baba, correspondant de service Aoussa de RFI, est reconnu coupable de non-dénonciation d'actes de terrorisme et blanchiment d'actes de terrorisme. Au Kenya, au moins 26 personnes ont été tuées, plusieurs blessées dans un accident de la route impliquant un bus et un camion sur l'autoroute entre Nairobi et Mombasa, la deuxième ville du pays. Les blessés ont été amenés à l'hôpital de la ville voisine de Makoundi. Le Parlement tunisien a assoupli la sévère loi sur les stupéfiants, accédant ainsi à une demande de la société civile qui dénonçait son coût social exorbitant pour les nombreux jeunes jetés en prison pour un seul joint. Promulguée en 1992 pendant la dictature de Zine Abidine Ben Ali, cette loi prévoit une peine minimale d'un an de prison pour consommation de stupéfiants, interdisant aux magistrats de prendre en compte toutes circonstances atténuantes.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump s'est engagé à combattre l'antisémitisme sous toutes ses formes. Aujourd'hui, nous nous souvenons des 6 millions de Juifs, hommes, femmes et enfants, dont les rêves ont été arrachés de cette terre. Nous nous souvenons des millions d'autres victimes innocentes des nazis, a déclaré M. Trump lors d'une cérémonie du souvenir organisée au Congrès par le Musée de l'Holocauste de Washington. On reste ici aux États-Unis avec le militant anti-esclavagiste mauritanien Biram Dar Abied qui reçoit ce soir à New York le prix du magazine américain Time qu'il a sélectionné parmi les personnalités les plus influentes du monde pour l'année 2017. Leader de l'initiative de résurgence du mouvement abolitionniste, il mène une lutte acharnée pour l'éradication de l'esclavage dans son pays. Timothée Donangmaï a joint donc Biram Dar Abied à New York.
Mon sentiment, c'est le sentiment de la satisfaction face à la reconnaissance accrue dont nous gratifie la communauté internationale, toutes tendances confondues, que ce soit les organismes internationaux, les organisations non gouvernementales, les gouvernements et maintenant encore la presse. Je pense que sur la bataille de légitimité que nous livre le pouvoir en Mauritanie, c'est encore des victoires gagnées. Voilà, et je pense que ça ne fait que renforcer le leadership de l'Iran Mauritanie en matière de droits de l'homme.
C'était Biram Dah Abeid, le leader de l'initiative de l'insurgence du mouvement abolitionniste, joint à New York. L'Union européenne a durci sa position sur les questions des droits de ses citoyens après le retrait du Royaume-Uni, de même que sur les questions de la facture du divorce et de l'avenir des services financiers. La facture que devra régler Londres en quittant l'UE est l'un des dossiers les plus sensibles des négociations. Bruxelles ayant déjà indiqué qu'elle serait salée, elle a été évaluée par les Européens à environ 60 milliards d'euros. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annulé une rencontre prévue avec le chef de la diplomatie allemande après une dispute sur le programme du ministre allemand des Affaires étrangères. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco présentée par Gaby Dorsil.
Dans une rencontre lundi à Abidjan, nouveau siège de l'Organisation internationale du cacao, les principaux producteurs mondiaux de fèves de cacao se sont engagés à coordonner leur volume et à trouver de nouveaux débouchés pour les ventes. Selon Jeune Afrique, ils ont adopté 6 résolutions. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Togo ont pris l'engagement d'augmenter leur influence sur les cours pour éviter les conséquences néfastes. Le Soudan du Sud va recevoir 106 millions de dollars de la Banque mondiale et de la BAD, la Banque africaine de développement, pour financer l'importation de produits alimentaires et la construction d'une route menant vers le Kenya. Au moins 2 régions du pays ont été déclarées en état de famine. Les produits alimentaires seront importés principalement de la Tanzanie et de l'Ouganda. Comme le rappelle l'agence Reuters, l'économie sud-soudanaise a régressé de près de 20% l'an dernier et le Fonds monétaire international prévoit une contraction de 3,5% cette année. La justice burkinabé a lancé une opération visant des auteurs présumés de blanchiment d'argent et d'autres crimes économiques. Par exemple, le richissime homme d'affaires Inoussa Kanazoé, magnat de la cimenterie et vice-président à la Chambre de commerce, a été inculpé notamment de blanchiment de capitaux, fraude fiscale et abus de confiance. 5 autres personnes arrêtées en même temps que lui et inculpées des mêmes infractions ont été écrouées lundi dernier à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. On reproche aux accusés d'avoir mis sur le marché du ciment avarié ou du ciment n'ayant pas été produit par la société mais reconditionné dans les sacs de la société.
Présent la page des sports, présentée ce soir par Eric Manirakiza. Eric, bonsoir.
Bonsoir Abdo.
On démarre par le football, première destination, l'Angleterre. Quel est le programme des matchs en retard?
Demain à 18h45, temps universel, Arsenal tente un comeback à domicile dans la course à l'Europe face à Leicester, qui n'a plus rien à jouer ce printemps, Abdou. L'occasion est belle au moment où les deux Manchester qui devancent Arsenal s'affrontent jeudi dans leur derby. Et de son côté, Tottenham veut encore y croire. Les Spurs, battus lourdement à Wembley samedi, ont perdu la bataille des esprits dans le duel à distance qui les oppose au premier du championnat. Demain donc, à 19h30, temps universel, à Crystal Palace, Tottenham va tenter de continuer à grignoter son retard sur le leader Chelsea.
Coupe d'Allemagne, la tension porte surtout sur la demi-finale entre Dortmund et Bayern.
C'est la 4e confrontation de la saison entre les deux poids lourds du football allemand. La rencontre se joue sur un seul match avec prolongation et tir au but éventuel. Pour le club bavarois, c'est la victoire en vue de sauver la saison ou la crise, car Dortmund peut pourrir la saison du Bayern en cas de défaite. Abdou, la claque des deux rivaux en Ligue des Champions a laissé un goût amer. Le gagnant rencontrera en finale à Berlin le 27 mai Mönchengladbach ou Francfort qui s'affrontent ce soir dans l'autre demi-finale.
Et en Espagne, on parle de la fin de la saison compromise pour Bale.
L'attaquant du Real Madrid, Gareth Bale, pourrait manquer le reste de la saison à raison de la nouvelle blessure contractée dimanche contre Barcelone en Classico. Le Gallois a été contraint de sortir après 38 minutes seulement de jeu alors qu'il faisait son retour après une blessure à une cheville. Cela priverait balle des deux demi-finales de Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid des 6 derniers matchs de championnat. Il pourrait en revanche être disponible en cas de qualification du Real en finale de la Ligue des Champions, mais Zinedine Zidane reste optimiste sur la blessure de son joueur.
Et on termine par la NBA, les playoffs Golden State qualifiés pour le deuxième tour. Toronto relancé.
Grâce à Stephen Curry impeccable, les Golden State Warriors se sont qualifiés hier pour le deuxième tour des playoffs NBA. Comme vous le disiez, ils ont remporté la série 4-0 face aux Portland Raptors dans la conférence Ouest avec une nette domination de la rencontre 128-103. Toujours à l'Ouest, Houston l'a emporté sur Oklahoma City. À l'Est, Toronto a sorti une performance collective complète pour prendre l'avantage sur Milwaukee.
Voilà, merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Une affaire judiciaire qui fait couler beaucoup d'encre au Burkina Faso. Le célèbre et richissime homme d'affaires Inoussa Kanzoé a été mis aux arrêts et inculpé pour plusieurs chefs d'accusation, dont le faux en écriture, la tromperie de consommateurs. Il risque une peine d'emprisonnement de 30 ans. Zoumana Wanogo pour VOA Afrique à Ouagadougou.
Le lièvre a été levé par notre confrère le courrier confidentiel et la justice l'a poursuivi. Suivant, Mme Maïsa Sérémé, procureure générale près du tribunal de grande instance de Ouagadougou sur les faits d'accusation.
Nous avons saisi le commandant de la compagnie de gendarmerie du Kadjogo afin de procéder à une enquête sur la base des infractions de faux et usage de faux, d'abus de confiance aggravé, de tromperie de consommateurs, de fraude fiscale et toute autre infraction que l'enquête viendrait à révéler et de nous dresser le procès verbal en arrestation si les faits étaient avérés. C'est ainsi, au vu d'un certain nombre d'éléments à charge, M. Inoussa Kanazoué et certains de ses collaborateurs ont été mis aux arrêts et gardés à vue le mercredi 19 avril 2017.
Les partisans et employés de Inoussa Kanazoué se sont mobilisés pour exiger sa libération. Mais pour le directeur de l'enquête, cette pression est moindre. Et pourquoi on écoute le capitaine Youmandia Lompo.
S'agissant des pressions que nous avons eu à subir, ne vous attendez certainement pas à ce que je vous dise que c'est le politique qui a influencé, c'est la hiérarchie qui a influencé ou le judiciaire. Loin de là, mais le monde économique a multiplié les tentatives. Nous sommes partis avec des propositions de plusieurs centaines de millions. Et nous avons même passé le cap du milliard. C'est vous dire que si nous avions cédé, ce soir je serais multimilliardaire. Voilà. Mais en bon intègre, je pense que nous ne mangerons pas de ce pain.
Les partisans de l'homme d'affaires Inoussa Kanazoué avaient promis faire un blocus des artères de la capitale burkinabé Ouagadougou et fermer le marché central Rodoukou. Mais quand nous y avons fait un tour, pas de blocage par les camions de la cimenterie et le marché est bien ouvert. Zoumana Wanogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Alors que la force de Boko Haram semble amoindrie ces derniers mois, il y a certaines parties du territoire nigérien qui ont été épargnées par l'insurrection djihadiste. C'est le cas de Ngoumi où s'est rendu l'envoyé spécial de VOA Afrique au Niger, Nicolas Pino.
Tango, donc il faut immobiliser le véhicule là et vous procédez comme d'habitude à la fouille, donc minutieusement. Vous vous rendez compte à l'issue.
Le soleil est levé depuis peu sur Ngigmi, mais cette patrouille de l'armée nigérienne est déjà à pied d'œuvre aux aurores. À sa tête, le lieutenant Ismaël et ses hommes arrêtent un véhicule pour vérifier l'identité des passagers et engager la conversation. Ce genre de contact avec la population est essentiel pour recueillir des renseignements, assure le jeune gradé nigérien.
Avant d'aborder les localités, le plus souvent, les premières personnes sur lesquelles on tombe, on essaie d'établir le contact avec elles, de les rassurer, de demander certains détails, certains renseignements.
Ici, pas de risque de tomber nez à nez avec Boko Haram, puisque le groupe djihadiste a plutôt épargné les alentours de Ngigmi depuis le début de l'insurrection. Les populations collaborent avec l'armée, elles ont mis en place des comités de vigilance, comme l'explique le chef de canton de Ngigmi, Maina Inoussa.
Samanga.
Vraiment, notre département, pour le moment, c'est calme. Les BH n'ont jamais pu pénétrer dans notre ville pour nous faire du mal. Vraiment, dans la région, vraiment, le département le plus calme, c'est le département de Ningimi. Bon, grâce à nos prières et puis avec la collaboration avec les forces de défense et de sécurité, les différents chefs de village qui sont en brousse, les éleveurs, tout le monde en train de communiquer avec les forces de défense et de sécurité pour donner les renseignements.
Même son de cloche de Boulama Ali Abdou. VOA Afrique a rencontré ce chef de village aux alentours de Ngigmi.
L'armée nous sert de bouclier contre les ennemis grâce aux militaires. On vit en harmonie avec nos familles ici. Depuis qu'on est ici, on n'a eu aucun problème. Les patrouilles de l'armée nous rassurent.
Ici, les déplacés nigériens ont en grande partie dû évacuer les îles du lac Tchad. Beaucoup ne demandent qu'à retourner chez eux pour pêcher ou faire de l'élevage comme avant. Boula Mamadou, du site de déplacés de Kimigan.
L'assistance alimentaire qu'on nous donne, c'est pour un mois. Il y a même des gens qui n'ont rien. Avec les familles que nous avons parfois, c'est difficile de joindre les deux bouts.
Loin des tensions et des attaques qui ont eu lieu le long de la frontière avec le Nigeria, entre Difa et Bosso, Ngigmi espère garder longtemps sa quiétude. À 40 km de là, les opérations de la force mixte se poursuivent dans les îles du lac Tchad pour nettoyer les derniers sanctuaires de Boko Haram. Depuis Ngigmi au Niger, Nicolas Pino, VOA Afrique.
Salut, c'est Nathalie Barge. Juste un petit mot pour vous dire de ne pas manquer votre nouveau rendez-vous, Le Monde au Féminin, également diffusé en direct sur Facebook à 19h, temps universel ce soir. Ce mardi, nous tenterons de savoir quel est le rôle et la place de la femme dans la médiation des conflits fonciers, grâce à l'expertise d'Anaïs Capu, responsable de programme pour l'Afrique centrale, orientale et australe à Search for Common Ground. Le Monde au Féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h, temps universel sur VOA Afrique. A tout à l'heure.
En Côte d'Ivoire, c'est ce mardi qu'a été inauguré à Abidjan le nouveau siège de l'Organisation internationale du cacao, l'ICO. Le siège était basé à Londres depuis 1973. Reportage à Abidjan de notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara.
Premier producteur mondial de cacao avec 1 700 000 tonnes, soit 40% de l'offre mondiale, quoi donc de plus normal pour la Côte d'Ivoire que d'abriter le siège de l'Organisation internationale du cacao. Un siège inauguré ce mardi à Abidjan par le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan et en présence de délégations venues d'une cinquantaine de pays producteurs et importateurs de cacao. Cette délocalisation du siège de l'ICCO de Londres à Abidjan devrait permettre à l'administration cacaoyère d'être plus proche des producteurs et de mieux appréhender les réalités du terrain. Jean-Marc Anga, directeur exécutif de l'ICCO.
À travers notre implantation dans un pays producteur, nous voulons offrir un meilleur accès à l'information sur le monde du cacao et relever les opportunités qui existent dont les pays producteurs pourraient bénéficier. Nous comptons y ajouter la formation des décideurs dans le domaine du cacao, qu'ils viennent de la partie gouvernementale ou du secteur privé, qu'ils soient de la presse, des milieux universitaires, que ce soit des étudiants ou des élèves. Nous voulons contribuer au renforcement des connaissances des administrateurs de projets dans le domaine du cacao. Nous voulons aider à former des financiers du cacao, des statisticiens du cacao, des économistes du cacao, des économétriciens du cacao, et j'en passe, à partir d'Abidjan.
L'inauguration du nouveau siège de l'ICCO intervient dans un contexte difficile pour le cacao. Les cours sont en chute sur le marché international, 30% de baisse depuis 6 mois. Une situation dramatique pour plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire qui vient d'annoncer une baisse de 10% de ses dépenses publiques. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan espère que la présence du siège à Abidjan permettra de trouver une réponse aux difficultés de la filière.
La Côte d'Ivoire est aujourd'hui convaincue que la présence de l'ICCO à Abidjan offrira des occasions de mieux appréhender la réalité du terrain et mieux apprécier les attentes essentielles des producteurs dans la perspective des décisions adaptées et des mesures concrètes en vue de l'émergence d'une chaîne de valeur profitable à tous. Les équipes de l'ICCO devront intégrer cette ambition et écrire ainsi de nouvelles lettres de noblesse de notre organisation commune.
L'Organisation internationale du cacao a été créée en 1973 sous les les auspices de l'ONU. Elle compte 51 pays membres, dont 21 exportateurs et 30 importateurs. La délocalisation du siège à Abidjan est donc un tournant dans la vie de l'organisation. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Bénin, le taux de grossesse des collégiennes ou lycéennes a augmenté au grand désarroi des organisations de la société civile qui multiplient les cours de sensibilisation pour dénoncer ce phénomène. Les grossesses en milieu scolaire restent une terrible épreuve malgré la loi qui autorise la jeune fille enceinte à poursuivre sa scolarité. Qu'est-ce qui explique le phénomène dans les lycées et collèges au Bénin? Notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adondé, nous en dit plus.
Elsa est aujourd'hui vendeuse de pain dans l'un des plus grands marchés du Bénin, le marché d'Antopa. Elle aurait voulu être cadre de l'administration publique. À 32 ans, elle est mère d'une fille de 18 ans. Elle avait eu à 14 ans alors qu'elle se préparait pour décrocher son certificat d'études primaires.
Si un homme vous aime vraiment, il va prendre la patience. C'est pas quand vous faites l'amour avec un homme que ça veut dire qu'il vous aime. C'est facile parce qu'il en aura assez un jour, il va vous jeter comme un torchon. Donc prenez la peine de vivre vraiment la relation et de laisser au moins de côté ses paramètres passionnels.
Comme Elsa, bien de jeunes filles sont forcées à une maternité précoce malgré les nombreux efforts consentis par l'ensemble des acteurs du système éducatif et même au-delà. Selon Éducation, par exemple, on dénombre chaque année une moyenne de 2000 grossesses dans tout le Bénin, avec assez d'enseignants en prison pour harcèlement sexuel, viol ou tentative d'avortement sur élève. Monsieur Aristide Bécon est directeur d'un collège de Cotonou. Pour lui, les filles ont une part plus grande de responsabilité dans cette affaire.
Les filles d'aujourd'hui à l'école n'ont plus autre vocation que de chercher à se faire plaire. C'est ça qui fait qu'elles s'adonnent tellement à la beauté, à l'esthétique. Les coiffures extravagantes, les tenues kaki qu'on appelle sexy ou les perles se font découvrir facilement. Ces filles dans leur démarche sont simplement provocatrices.
Pour Sandra, journaliste de profession, à côté de l'éducation, les filles doivent pouvoir cheminer avec les valeurs qui le sont inculqués.
On a beau être en milieu scolaire ou pas, la plupart du temps, lorsqu'on n'a pas une éducation assise sur certaines valeurs, il va de soi qu'on peut quitter la vision qui a été établie par rapport à ce que nous devons faire. À côté de l'éducation, il y a également l'influence, parce que le tout, ce n'est pas de dire des interdits aux enfants, mais c'est de forger leur mental de telle sorte que, même quand les parents ne sont pas là, qu'elles puissent être habitées par les valeurs qui ont été promues depuis la base.
Afin de freiner l'élan du phénomène, il est interdit aux filles de se tresser, de porter des tenues sexy et même de venir à l'école avec des téléphones. Le psychopédagogue Raoul Arlin y voit plutôt une naïveté de la part des jeunes filles qui veulent plus paraître qu'être.
La solidarité mécanique a disparu et on a affaire à une solidarité plus ou moins organique où chacun se dit, si je me mets à la disposition d'une jeune fille, ça veut dire que j'attends quelque chose de cette jeune fille-là et elle-même renégocie cette solidarité autrement. Elle va mettre son sexe, son charme à disposition pour avoir accès à ça parce qu'elle a envie de s'émanciper, elle a envie d'être heureuse, elle a envie de vivre mieux.
Doris Dietongoudou fait du coaching scolaire. Elle pense que mettre à la portée des acteurs impliqués dans cette histoire, les rudiments nécessaires paraît primordial, si tant est-il qu'on tient à faire reculer les frontières du mal. C'est d'ailleurs bien inscrit dans son programme de coach scolaire.
À travers le coaching, nous montrons aux adolescents que même à cette étape de la vie, il serait plus judicieux pour eux de prendre leur temps, d'avoir l'information juste et de penser plus à leur avenir qu'au plaisir immédiat. Aussi avec les parents, nous essayons de voir comment est-ce qu'ils peuvent se servir des centres d'intérêt de leurs enfants pour mieux les suivre.
Aujourd'hui, quand on s'en tient aux statistiques, au nombre de filles à peine sorties du berceau et qui se retrouvent enceintes, une thérapie de choc s'impose pour conjurer le mal. Et même s'il faut une volonté politique pour relancer le débat, il est important que les parents redeviennent complices et amis de leurs enfants au lieu d'être ces éternels juges qui ont laissé la rue prendre le dessus. De Cotonou, je n'ai plus à demander pour VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mardi dans l'émission RN Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RN Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RN Show vous dit Peace Africa.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Sims Lumami. À la console, Wojtek Zorniak. Présentation, Abdourahman Diar. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet poafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.